Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons découvert qu'une partie des anges, qui administraient le gouvernement de Dieu sur terre, se laissèrent séduire par le raisonnement de Satan. Ils avaient entendu de la bouche même de Dieu ce que pouvait être leur destinée. Bon nombre d'entre eux considérèrent la voie divine comme étant bonne. Ils n'avaient jamais envisagé une autre alternative, mais petit à petit, ils se mirent à penser pouvoir trouver une autre voie plus valable. Nous pouvons dire que le péché est le rejet de la voie divine en faveur d'une autre. Bien souvent, le péché débute par un manque de respect vis-à-vis du gouvernement ou du mode de vie que représente la voie de Dieu. Le péché peut être généré par une comparaison entre la voie divine et une autre. Le péché est l'erreur de croire qu'une autre voie, différente de celle de Dieu, est meilleure, supérieure. En fait, le péché est se laisser séduire par un raisonnement personnel ou par celui de Satan. Le péché est donc le rejet de Dieu, de sa voie, de son amour. Si nous considérons une autre voie que la voie divine, nous transgressons le premier commandement qui demande de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel, celui qui est vivant à jamais. Et celui qui se place dans une telle position, qui croit à ses idées égales ou supérieures à celles de Dieu, en arrive à vouloir se servir lui-même au lieu de servir le Créateur. Ayant préféré la mauvaise voie, à un moment qui n'est pas défini par la Bible, un tiers des anges se rebella ouvertement contre Dieu, et Lucifer, devenu Satan, l'adversaire, abandonna avec ses anges le poste qui avait été assigné à chacun d'eux. L'apôtre Jude écrit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, leur premier état, leur première position et qui abandonnèrent la terre, furent punis parce qu'ils pensaient pouvoir tromper Dieu. En effet, ils avaient une autre ambition, ils voulaient s'emparer du trône divin et éliminer Dieu de là pour prendre le contrôle de tout l'univers. Le prophète Ésaïe relate cet événement en ces termes. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Ceci est traduit de l'hébreu « Eilel », en latin « Lucifer ».« Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ces trois versets décrivent bien un être spirituel, abandonnant son trône sur terre pour tenter de s'emparer du trône divin. Il veut usurper la place de Dieu, devenir lui-même un Dieu pour régir toute chose à sa façon. Cette ascension, cet assaut, cette guerre dans les cieux enchaîna une réaction fulgurante. Jésus affirme « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » À partir de ce moment, Satan et ses démons furent confinés à la terre, une terre dévastée par ces événements, comme nous le lisons dans le récit de la Genèse, qui confirme que la terre était, qu'elle devint informe et vide. Les mots « informe et vide » sont traduits de l'hébreu « tohu bohu ». Ils seraient mieux traduits par « désolé, dévasté et vide, chaotique » ou « dans la confusion », comme notre lune, sauf que la surface de la terre fut recouverte d'eau. Mais Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, remit de l'ordre sur la surface de la terre. Et c'est alors qu'il créa l'homme et la femme. Nous pouvons nous demander ce que Dieu se proposait d'accomplir avec les êtres humains. Il convenait de savoir si l'homme se qualifierait et accepterait de se soumettre aux lois du gouvernement divin. L'homme pourrait-il suivre la voie divine ? Pourrait-il se soumettre au gouvernement de Dieu, autrement dit, pourrait-il observer les commandements et les lois pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu? L'homme pourrait-il mettre sa confiance en Dieu acceptant de ne faire que ce qui est juste, se refusant ainsi de considérer toute autre alternative. Si l'homme avait refusé de faire le mauvais choix, s'il avait accepté de vivre selon le mode de vie fixé par Dieu, il aurait découvert le bénéfice qu'il pouvait récolter d'une vie d'obéissance. Mais il n'en a pas été ainsi. Dieu, qui peut bien sûr tout prévoir, a mis Adam au banc d'épreuve, au banc d'essai, et de suite, celui que nous connaissons comme étant le diable, le serpent ancien, Satan, séduisit la femme et en arriva à la convaincre qu'il existait d'autres façons de vivre que celles fixées par Dieu. Dans le jardin d'Éden se trouvait un arbre symbolique de la voix du démon, et Dieu le déclara interdit à la consommation. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait le droit de décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dieu ne permit pas aux membres de la famille humaine d'en manger, d'avoir ce droit. Lui seul peut décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais Satan mit dans l'esprit de la femme l'idée qu'elle pouvait en manger. L'homme et la femme n'ont pas voulu apprendre la différence entre la vérité et l'erreur, ce qu'ils auraient découvert en pratiquant ce qui est juste. Ils ont voulu prendre le contre-pied des instructions divines, ce qui est un péché, et c'est toujours ce que l'humanité fait aujourd'hui. En fait, Satan conçut l'idée que si le premier couple pouvait développer sa propre voie pour tenter de se placer sur un plan d'égalité avec Dieu, si Adam et Ève acceptaient de se reposer sur leur jugement et non pas sur la parole de Dieu, alors lui et ses anges reprendraient en main le gouvernement. C'est exactement ce qui se passa. Voilà pourquoi l'homme, aujourd'hui, ne croit pas qu'il existe un gouvernement mondial qui est en cours depuis 6000 ans environ, mais qui n'en reste pas moins invisible pour l'humanité, car il est composé d'esprits qui se sont rebellés contre les lois de Dieu. La Bible confirme que Satan est le dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Ce gouvernement n'a pas cessé d'influencer, de séduire la famille humaine depuis le jardin d'Éden. Puisque la famille humaine a voulu suivre sa propre voie, elle s'est coupée de Dieu, mais en quelques rares occasions, Dieu a choisi de se révéler à certains individus. Néanmoins, Dieu a un plan et son plan avait prévu que le monde continuerait à faire ce qu'Adam et Ève avaient choisi de faire, c'est-à-dire trouver d'autres voies que celles fixées par Dieu. Dieu savait que l'homme considérerait que le bien est mal et que le mal est bien, que la lumière est ténèbre et que les ténèbres sont lumière. En fait, depuis que Dieu a défini ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est lumière, l'humanité a pris sur elle l'idée d'appeler l'opposé par ses mots. Dieu chassa l'homme et la femme du jardin d'Éden, et ce fut le commencement des sociétés. Les nations se développèrent, et tout en laissant de côté des événements comme le déluge, nous pouvons dire que pendant 2000 ans d'expérience humaine, l'humanité a suivi sa propre voie. C'est ainsi que nous en arrivons à un homme qui vivait en Mésopotamie. Un homme à qui Dieu choisit de se présenter, de se révéler, et par lequel il allait susciter une nation parmi les nations du monde. Cet homme, qui lui aussi fut mis au banc d'essai, nous le connaissons sous le nom d'Abraham. Ayant passé avec succès les épreuves auxquelles il l'avait soumis, Dieu lui révéla ce qu'il attendait de lui, un changement radical de vie. Remarquons soigneusement ce qui est dit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » « Marche avec moi, lui demanda l'Éternel, et deviens intègre. » Ce mot est traduit de l'hébreu « tamim », signifiant « deviens parfait, irréprochable ». Voici donc la ligne de conduite que devait adopter Abraham. Il devait marcher avec Dieu et il devait devenir parfait. Devenir parfait, c'est devenir ce que Dieu est. Adam aurait pu le devenir, mais il a préféré suivre son épouse qui avait été séduite. L'homme est bien sûr capable de penser, d'inventer ses religions, ses structures politiques. Tout comme un tiers des anges a pu se rebeller, Dieu a permis que les hommes restent dans les ténèbres spirituelles et se rebellent contre ses lois et ses commandements. Cependant, nous voyons ici Dieu s'adresser à un individu, à Abraham, et lui demander de devenir parfait. C'est exactement ce que Jésus demanda à ses disciples, car dans son sermon sur la montagne, il leur dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Abraham devait donc se forger un caractère parfait. Et pour y arriver, il devait mettre en pratique ce que Dieu attend des membres de la famille humaine. L'Éternel dit à Isaac, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien qu'ils furent répétés plus tard au mont Sinaï, nous constatons que les commandements, les statuts et les lois étaient déjà en vigueur à l'époque d'Abraham. Au cours du premier sabbat, Dieu expliqua certainement à Adam ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Abel suivit ses instructions puisqu'il fut appelé « juste » dans Matthieu 23. Enoch marcha avec Dieu. Noé devait également observer les lois divines puisqu'il est appelé « prédicateur de la justice ». Ce que prêchait Noé ne pouvait être que les commandements puisque les commandements sont justes ou justice. La véritable Église de Dieu, la seule qui ait été bâtie par le Christ, doit à son tour enseigner les ordres, les commandements, les statuts et les lois de Dieu à ses membres, afin de leur éviter de vivre dans le péché. Puisque l'apôtre Jean écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi ». Abraham se soumit à Dieu, et lui qui n'avait pas d'héritier dans sa maison, qui s'en allait sans enfant, eut confiance en Dieu lorsqu'un fils lui fut promis. L'Éternel lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Plus tard, lorsque Dieu le mit à l'épreuve et lui demanda de lui offrir son fils Isaac, son unique, celui qu'il aimait, Abraham n'hésita pas, car il était persuadé que Dieu tiendrait sa promesse et qu'il était capable de ressusciter les morts. Il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac. L'apôtre Jacques écrit au sujet d'Abraham, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » C'est l'obéissance à Dieu, à ses ordres, à ses commandements, à ses statuts et à ses lois qui forment le caractère parfait. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.